Chapitre 7. Le nouveau locataire comprenait que la distance entre lui et Février allait en diminuant. Le temps avançait, mais non pas la mission. Ce lundi matin, il avait vu toutes les femmes de la maison prendre la route. Fidèle à son poste, il vit par les trous du rideau les filles Yonne qui descendaient l'escalier d'un pas pressé, accompagnées de claquements de talons, chacune vacante à son labeur quotidien. Yardena et la petite furent les premières à sortir. La gamine trottinait derrière sa mère, éployée sous le poids du cartable dont une courroie déchirée traînait par terre. Elles avaient à peine disparu que la Roumaine et Madame Hanna Yonne prirent position devant le portail dans l'attente d'un taxi, élégamment vêtues, l'une un sac sur l'épaule et l'autre un porte-monnaie à la main. Hanna Yonne a regardé le ciel par l'interstice entre deux toits. « Regarde, Johanna, que le ciel de Jérusalem est bleu. Celui de Tel Aviv, il est gris comme une souris. Tu sais ce que c'est, souris ?» La Roumaine leva les yeux au ciel. « Passez ce souris, mais aujourd'hui on va à Tel Aviv pour Tel Aviv, pas pour le ciel de là. » L'homme n'eut pas besoin d'en savoir davantage. Il fallait juste prendre un moment d'attendre, au cas où elles auraient oublié une écharpe, un médicament, un document, un porte-monnaie ou toute autre chose susceptible de les ramener au galop à la maison. Elles avaient baissé les stores et fermé la porte à clé. Mais, dès le jour de son arrivée, la vieille lui avait montré un creux sur le mur extérieur de la cuisine où l'on cachait la clé de la porte de derrière. Un petit bloc de pierre glissait et découvrait le trou. Cette clé, c'était en cas d'incendie ou d'hémorragie cérébrale pour que les pompiers et les infirmiers puissent entrer sans attendre qu'une femme calcinée ou comateuse vienne leur ouvrir. Consultant sa montre, il pensa patienter une demi-heure. Il regarda la grande cour aride et pensa aux bénéfices colossaux qu'elle apporterait. Il allait pénétrer chez la vieille et fouiller dans ses papiers pour s'assurer qu'il n'avait pas de concurrent. Pas d'offre d'achat, pas de rapport d'expert foncier, ni de brouillon de contrat. S'il se trouvait des concurrents, il ferait part à Brouchy de leur nombre et de leurs offres. Micha ferait une contre-proposition susceptible de mettre tous les adversaires en déroute. Il fit jouer le morceau de pierre, tira la clé de sa cachette, nettoya son pantalon des crépis qui avaient sauté dessus et remit la pierre en place. Il regarda à gauche et à droite, constata que les lieux étaient déserts, inséra la clé dans la serrure d'un geste rapide, tourna, entra, referma la porte derrière lui et ferma à clé. Une forte odeur d'ail frappa ses narines, provenant de gousses mises à sécher sur le bord de la fenêtre. Il n'était jamais entré chez personne en effraction. Son ombre sur le carrelage lui fit peur et il pensa. « Tu n'es pas un voleur, Rafi. En fin de compte, la vieille aussi aura tout à y gagner. Il lui faudra bien plus de 120 ans pour dépenser la fortune que cette affaire va lui rapporter. »« Quel idiot ! Si je suis pas bête, j'aurais dû prendre des gants avec moi. J'aurais dû penser à une histoire à gober. Qui sait si je ne suis pas maintenant sous le regard attentif d'une caméra bien planquée dans cette maison soupçonneuse ?» Il leva un nez éperdu au plafond et découvrit tout un réseau de fils électriques qui couraient dans les rainures tout effritées. Il baissa la tête et s'offrit un verset de la Bible. « Comme tu es perdu, ainsi tu es perdu, Rafi. » Il heurta le pied d'une chaise et entra dans la chambre de la vieille dame. Après avoir allumé la lumière, il ouvrit un tiroir et sentit son cœur se serrer. Et Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Passé le point de non-retour. Il ricana et se moqua de sa frayeur. Laisse tomber Dieu, il n'a rien à faire dans les moments les plus lamentables de son existence. Tu n'as rien d'un Pharaon et personne ne te durcit le cœur. Tu peux encore faire machine arrière. Il ouvrit le tiroir des sous-vêtements de Hanna Yonne. Une forte odeur de temps passé se mêla à celle du tissu qu'on avait lavé, lessivé, séché et porté des dizaines de fois. Il passa les doigts sous les culottes bien pliées de la propriétaire. Il fouilla et tâta, mais ne sentit pas la moindre présence de papier sur le bois fendu. Tout en farfouillant, il tâchait de ne pas troubler le bon ordre des sous-vêtements rangés les uns contre les autres par groupe de cinq. Dans le deuxième tiroir, il passa en revue des combinaisons de soie jaunâtre et ne trouva rien. Il passa la main pour effacer les traces et étudia le troisième tiroir. Et, d'un tiroir à l'autre, la nervosité de ses doigts allait croissant, il tremblait, se calmait et devenait moites et collants. Arrivé au tiroir d'en bas, il maugréa contre la surpopulation des bas de Hanayona. Combien de chaussettes fallait-il pour une seule paire de pieds usagés? Il y en avait des fines et des grosses, des vieilles et des neuves, des courtes et des longues. Où pouvait-elle donc aller? Et qui donc lui regardait les jambes? Elle les emmagasine comme des haricots et du riz à l'approche de la guerre. Il claqua le tiroir et passa à la petite commode au chevet du lit. Sous un tas de médicaments, des papiers divers faisaient rapport d'une colonoscopie passée 2 ans plus tôt, d'une cystoscopie 1 an auparavant, des tests d'efforts de tous âges et d'examens sanguins. Dans le second tiroir, il trouva des bijoux, des bracelets d'argent noircis, les boules d'un collier de saphir, une broche d'or terni et un collier de perles de verre de couleur verte, grise, violette et transparente. En touchant le collier, il voulut le prendre pour lui et tressaillit. « Salaud tant qu'on voudra, mais pas voleur !» Il referma le tiroir d'un coup et passa au suivant, mais celui-ci demeura clos. Après l'avoir secoué vigoureusement, il parvint à l'ouvrir et il s'en échappa une ribambelle de paperasse. Fou de joie, il le retira et le retourna sur le lit de la vieille dame. Assis sur la couverture, plein d'ardeur et d'impatience, il se mit à tout trier. La plupart des documents étaient jaunis par l'âge, comme si on avait versé du thé chaud dessus. Les feuilles plus récentes, blanches et rigides, émanaient de la Sécu, d'une association de prêts de matériel médical, de la section des travailleurs étrangers, du dentiste et de la banque. Il plongeait dans le matelas moelleux de Hanayon, le derrière bien au creux, et il aurait pris plaisir à mettre la tête un moment sur l'oreiller. Il se sentait las et malheureux. À quoi passait-il son temps? À quoi perdait-il ses journées? Pourquoi jouait-il aux escrocs? Si l'une des filles arrivait à l'improviste et le surprenait ainsi, il avouerait tout sur le champ, ferait ses paquets et s'en irait. Et si la police intentait des poursuites contre lui, il dirait tout et prendrait la responsabilité de ses actes sur lui. Il se leva, ramassa tous les papiers d'une main grossière, les fourra pêle-mêle dans le tiroir, froissés et mal pliés, et tout en désordre. Dans son empressement, il ne remarqua pas le reçu d'un opticien qui resta sur le lit. Il ne daigna même pas effacer les signes de sa présence et ne remit pas en place le dessus de lit. Il laissa la lumière allumée. Revenu à la cuisine, il ouvrit la porte de derrière, sortit, referma, remit la clé à sa place et repoussa le bloc de pierre. Il rentra chez lui et alla prendre une douche dans l'espoir d'effacer l'odeur d'ail qui lui collait au corps, le contact des sous-vêtements et du lit de la vieille, de ses combinaisons et de ses médicaments, de toutes ses antiquités et de tout ce qu'elle avait touché. Sous le jet puissant de l'eau, il se savonnait et se rinçait tour à tour, citant le Lévitique. Il lavera sa chair et se purifiera. Mais lui, il se lavait la chair et ne se sentait pas purifié. De son corps émanait toujours l'odeur de la vieille femme. Il se résolut à sortir, espérant que l'air et le vent de la rue réussiraient là où le savon et l'eau avaient échoué. Il s'arrêta devant la vitrine d'une boutique de vêtements pour hommes et vit qu'on y vendait déjà la collection d'hiver. Une jeune et jolie vendeuse se tenait sur le seuil et l'invita à entrer.
« Nous avons reçu du matériel de première classe, tout neuf, dernier cri.
« Juste, dites-moi quel est votre style. » Son style. Comme s'il y comprenait quelque chose, comme s'il avait du style. Il s'habillait dans les grands magasins, et même ça, c'était assez rare. Il ne voulait ni entrer ni acheter, mais il souhaitait l'écouter parler encore des avantages de la saison et de la mode. N'importe ce qu'elle dirait, l'essentiel, c'est qu'il entende une voix qui lui parle au lieu de sa propre voix à lui. Il pénétra après elle dans la boutique et elle lui montra un tas de chemises à manches longues et de manteaux légers et lourds. Il contempla paisiblement tout ce qu'elle déversa sur le comptoir, étala et replia. Gêné du dérangement qu'il lui causait, il se décida à acheter quelque chose et demanda. « Vous avez des gants par hasard ?»« Tiens, ce qui reste de l'an dernier. Nous n'avons pas encore reçu les nouveaux. »« Va pour l'an dernier. » Il pense à prendre ce qu'elle lui montrerait, payer, en finir et s'en aller. Il y avait toutes sortes de gants dans le tiroir qu'elle ouvrit. Cuir, laine, fin, épais. Il essaya une paire en cuir noir, traitée, tannée et tendue à l'excès. Il remua les doigts à l'intérieur pour s'assurer que le gant n'en limitait pas le mouvement et s'assura de ce que le cuir ne laissait pas d'empreinte. Il paya, abandonna la facture sur le comptoir et sortit. « Espèce d'idiot, pourquoi tu as acheté ça? T'es un prince anglais ou quoi? Tu joues de la trompette à l'orchestre de l'armée ?» Il avait horreur de toute séparation entre sa peau et les objets qu'il touchait. Il aurait travaillé sans gants dans une ruche. Les abeilles auraient respecté ses mains et ne les auraient pas touchées. Les animaux savaient différencier les mains innocentes des coupables. S'il pouvait se séparer de ce brouchi, ce serait le mieux. Il allait travailler dans une ruche et passer ses journées avec ses petites ouvrières du miel. C'est tout ce dont il rêvait, se remplir la cervelle de leur bzzz lancinant. Il en avait marre des mots, des entrepreneurs, des vieilles, des gens et de lui-même. Son père avait bien de la chance d'être parti et de ne pas voir son génie de fils patauger dans la merde, forcer la porte d'une fossile et lui tripoter les culottes. Ce père l'avait inscrit dans une école religieuse, lui avait dit « Apprends chez les religieux, sache ce que dit la Torah et sois un homme. » La première partie du discours n'avait pas mal marché. Il connaissait la Bible. On pouvait le réveiller et l'entendre déclamer « Et si le voleur est pris dans les ténèbres ?» Et alors, n'en était-il pas moins voleur pour ça? Si son père avait vécu, il lui aurait dit « Raphaël, laisse tomber tout ça. Une femme, c'est une femme qu'il te faut. Marie-toi. » Mais son père manquait à l'appel et sa mère aussi. Elle avait disparu de la circulation bien avant son mari. Un homme qui n'a ni parents, ni femme, ni enfants, c'est comme un bateau à qui il manque l'ancre. Il se balance et va là où les flots l'emportent. Heureusement qu'il avait Ziva et Moti, une ancre boiteuse certes, mais une ancre quand même. Il s'assit sur un banc sur l'avenue et observa les gens qui allaient et venaient, tous pressés à remplir quelques missions, à rapporter un chou à la maison, à payer l'électricité, à sortir un vêtement de chez le teinturier, à donner une montre à réparer. Et lui, il était seul au milieu de la rue, de la ville et de la vie. Peut-être pas encore le milieu de la vie, mais cela n'allait pas tarder. Tout n'était qu'une ombre éphémère et février n'était pas loin non plus. Il composa le numéro de Brouche et l'écouteur lui demanda instantanément « Il y a du neuf ?» Brouche ne perdait pas de temps en « Bonjour, comment ça va ?»« Nous n'avons aucun concurrent. » »« Nous ?» Comme si les rôles étaient comparables. Il s'efforçait de garder bonne contenance et de rester pratique et résolu. « D'où tu sais ? Elle t'a baratiné et tu l'as cru ?» Brouche ricanait nerveusement. « Elle ne m'a rien baratiné, j'ai fouillé dans ses papiers, il n'y a rien. »« Et attention, pas de pépins avec la police, hein ? Je suis sous caution pour autre chose, travaille avec la tête, hein ? Je ne veux pas d'ennui, tu m'entends ? » J'entends, j'entends !» Évidemment, il entendait. Il se sentait comme l'esclave appelé à donner à boire à son maître et qui lui avait jeté la carafe à la figure. Ça aussi, il l'avait pris chez les religieux. Les gens pratiquants, ils ne manquent pas de proverbes et de maximes. Ils ont une foule de sentences et d'épigrammes et ils ont peur de toucher la vie de la main. Alors ils l'enveloppent dans un tas de mots et l'entourent de versets et de dictons, tout ça pour ne pas toucher à la chair vivante. En quoi les maximes pouvaient-elles l'aider? Il lui fallait de l'argent, ici et maintenant. Il devait soit racheter sa peau et sa liberté à Brouchy, soit lui apporter la vieille sur un plateau cuit à point. S'il était libre de ses mouvements, il s'inscrirait à des excursions de célibataires, appellerait Love Me sur le 0506 et ne lâcherait pas le Facebook avant d'avoir trouvé. Heureusement, on n'a plus aujourd'hui à siffler derrière une fille ou à l'accoster dans l'autobus. Un doigt sur le clavier et l'ordi devenait votre oracle, indiquant qui pouvait être candidate et qui non. Il était d'ailleurs bien plus doué pour écrire que pour siffler ou demander « S'il vous plaît, quelle heure est-il ?» dans l'autobus. Autrefois, avant de s'être vendu en esclavage à ce Brouchy, il lisait des livres, écrivait des poèmes, s'attendrissait à la vue des feuilles tombantes et composa un hymne à la gloire des feuilles qui brunissent sur le lierre, au fil d'argent qui entoure le nuage et à l'amour. Et maintenant, il employait ses cellules grises à tromper une vieille débile. Si les cheminées du ciel s'ouvraient et l'aspergeaient d'un flot d'argent, il enverrait ce Brouchy paître. Ou encore, si Dieu avait la bonne idée de lâcher un parpaing sur la tête de cette toquée et de la prendre à son compte, tout s'arrangerait. En 24 heures, les filles se débarrasseraient de la propriété au profit du meilleur acquéreur. Il toucha les gants sous le sachet de plastique, leva les yeux au ciel et eut honte de lui. Comment attendait-il que des causes de malheur ou de bonheur tombent du ciel et le délivrent du besoin d'agir lui-même ? « T'es une chiffre, Rafi. Lève-toi et fais quelque chose. Le bien ou le mal, mais agis. » « Vous permettez ?» Une femme s'installait à côté de lui sur le banc, se poussait et gardait une distance raisonnable entre eux. Elle sortit de son sac un sandwich dont elle déplia l'emballage et demanda « Vous en voulez ? J'en ai un autre. » « C'est à quoi ? » demanda-t-il, surpris lui-même de s'entendre. « Au fromage jaune et au concombre !» répondit-elle en montrant le contenu. Le fromage avait l'air bien étalé et les rondelles de concombre émettaient des effluves appétissants. « Oh oui !» répliqua-t-il sans ajouter le terme « merci ». Et sans hésiter, il prit le sandwich qu'elle lui tendait sans un mot et il mangea avec grand appétit et ne se reconnaissait plus. Il comprit qu'elle eût été contente qu'il entamât la conversation, mais il mordait, mâchait et se taisait. Il était content de lui. Bravo, Rafi, tu fais des progrès, tu prends de l'assurance. Inutile de satisfaire tout le monde et son père. Ça suffit, tous les merci et les pardons à gauche et à droite. Il acheva le sandwich, mit l'emballage en boule et le glissa dans le sachet aux gants. Il restait muet et, entre le passage de deux voitures, il entendait le bruit des mâchoires de sa voisine. En d'autres moments, il se serait dit « Ah, quel monde magnifique ! Une étrangère s'assoit à côté de toi, ouvre son sac et t'engage à partager sa pitance. » Mais aujourd'hui, il n'avait plus de raison de penser en bien sur quoi que ce soit. Les mauvaises pensées étaient bien plus naturelles, elles naissaient toutes seules. L'étrangère avala la dernière bouchée, mit le morceau d'emballage dans son sac, s'essuya la bouche et se leva en disant « Portez-vous bien !» Elle se rendit en boitant au bord du trottoir et s'apprêta à traverser. Il remarqua qu'elle avait une jambe plus courte que l'autre. Il voulait crier « C'était délicieux !» Mais il ne dit rien. C'était comme ça que se conduisait un cochon. Il balaya ses dents d'un coup de langue pour y chercher des lambeaux de pain qui étaient encore collés et entendit le bip des infos à la radio d'un magasin de vêtements pour enfants. Il saisit des bribes de phrases. Il était question d'un accident mortel sur la route de Jérusalem à Tel Aviv. Il tendit l'oreille, mais le rapport s'évanouit dans le brouhaha de la rue. Il quitta le banc et coupa directement vers la boutique. Il se fraya un passage entre trois acheteuses, deux enfants et deux poussettes, et demanda en élevant la voix. « Qu'est-ce qu'ils ont dit aux infos sur un accident ?» La vendeuse haussa les épaules. « Je n'ai pas fait tellement attention. » Les autres ne s'occupèrent même pas de lui et continuèrent à faire tourner le carrousel à la recherche d'un vêtement. Il insista. « Sur quelle route il y a des morts ?»«
Je vous ai dit que je n'ai pas tellement fait attention. Demandez dans le magasin d'à côté, peut-être qu'ils ont entendu. C'est nouveau les accidents ? Tous les jours il y a quelqu'un qui se fait tuer dans ce pays. » « Madame, prenez celui-ci avec les manches longues, ça va être l'hiver. »« Vous avez des enfants ? Il y a une remise de 30% sur tous les vêtements d'été. »«
Non, je n'en ai pas. » Et il resta planté là, au milieu de la boutique.
« Alors vous n'avez rien entendu de plus à propos de cet accident ?»« Mon lapin, moi, je travaille. » Ce qu'on raconte à la radio, ça me rentre par une demi-oreille et ça me sort par l'autre. »
Il sortit et fit les 100 pas sur le trottoir. Le soleil baissait. L'horizon en avait déjà dévoré la moitié, comme disaient les commentateurs bibliques. Cela aussi revenait à sa pensée au bas de la vague. Quand il était petit, il adorait Rashi et c'était pour ses commentaires qu'il accourait aux leçons. Mais c'était fini depuis longtemps. Il devait attendre le flash de 4 heures. Il était de plus en plus sûr que la vieille était dans l'autobus et qu'elle avait été la victime de l'accident. Il se rongeait les ongles sur le trottoir et, à 4 heures précises, il entra dans un magasin de chapeaux. Il apprit que la route de Jérusalem à Tel Aviv, qu'on avait fermée à cause de l'accident, avait été ouverte dans les deux sens. L'adage disant qu'on ne trouve de joie qu'en éclairant les soupçons, il pensa appeler la police et demander le nom des victimes. Mais il se ravisa. Quel idiot ! Des milliers de gens prennent cette route tous les jours. Du point de vue statistique, la probabilité est bien faible que ce soit la vieille plus que sa roumaine ou n'importe qui d'autre. Mais la statistique ne pouvait pas grand-chose contre les pressentiments. Il composa le numéro de la maison Yona, mais n'obtint pas de réponse. De deux choses l'une, soit elles sont encore à traîner à Tel Aviv, soit la Roumaine et la défunte sont à Abour Kabir ou à quelque autre morgue. Il ignorait les numéros de leur portable et même si elles en avaient un. L'incertitude l'agaçait et en même temps lui apportait une certaine satisfaction. Cette attente où toutes les possibilités sont encore ouvertes lui rappelait le tremblement qui précédait le moment où l'institutrice allait rendre les rédactions, les tenait toutes en main et retardait le moment crucial. L'espoir de la réussite et la crainte de l'échec se joignaient pour pousser ses dents à lui ronger les ongles. Il entra dans un café et commanda un expresso court. Il regarda un match de basketball sur l'écran d'une télévision accolée au mur d'en face. Après 1 heure ou plus, il commanda un gâteau qui justifia sa longue présence sur place. Il contemplait les muscles luisants des joueurs à la peau noire et il se sentait jaloux de leur héroïsme. Si l'histoire de la vieille dame parvenait enfin à son terme, le premier investissement qu'il ferait dans sa vie nouvelle concernerait sa forme physique. Le soleil se couchait. La rue qu'on voyait par la fenêtre s'emplissait de grisailles. Dans le café, on avait déjà allumé les lumières. Les consommateurs commençaient à occuper de plus en plus de tables. Il regarda autour de lui. À chacune d'entre elles se trouvait au moins une personne occupée à parler sur son portable. Et lui, son téléphone ne donnait et ne recevait ni appel ni texto. Qui pouvait-il donc appeler ? Ziv ? Brouchi ? Les rares amis qu'il avait encore dans son village natal ? Son bilan social lamentable l'effraya et il porta son attention sur la vie nouvelle qui l'attendait lorsque s'achèverait le chapitre consacré à Brouchy et à la maison Yonne. Il fit signe à la serveuse, paya et laissa exactement le pourboire dû. Il pensa prendre un taxi, mais opta pour la station d'autobus. « Tu n'es pas encore un homme riche, Rafi, » se dit-il. Et il attendit comme tout le monde. Les mains dans les poches, il tripotait tantôt les pièces de monnaie de l'une et le sachet aux gants qui gonflait l'autre. Il descendit et se dirigea vers la maison. La façade en était tout éclairée. Il sentit ses genoux fléchir. Qu'avait donc la réfugiée du kolkhoz roumain qui manquait à son habitude de se jeter sur les commutateurs pour éteindre les lampes inutiles? Peut-être était-ce elle qui avait été tuée, et peut-être les deux? Allait-il trouver les filles réunies chez la vieille après avoir reçu la nouvelle? Il traversa la rue et colla son oreille à la pierre du mur. Ce pan de muraille froide laissait filtrer des voix de femmes, mais le vacarme de la rue les dispersait et il ne pouvait déterminer ni qui ni de quoi on parlait. Il se reprit et ouvrit le portail comme quelqu'un qui vaque à ses occupations quotidiennes. Il traversa la cour, se dirigea vers son logement et ne remarqua pas Orne debout à la fenêtre de la chambre de sa mère. Mais elle le héla au passage d'un ton qui ne lui laissait pas le choix. « Rafi, Rafi, venez ici !» Il tourna sur ses talons et revint vers elle, le sourire aux lèvres. « Salut, comment va ?» Tâchant de donner à sa voix un ton léger et naturel, il se dirigea vers la porte de Han à Yona. On lui ouvrit. Il entra et demeura stupéfait. La vieille dame, plus vivante et plus dynamique que jamais, se tenait debout au milieu de sa chambre à coucher, et la roumaine, livide et excitée, s'accrochait à elle, un verre d'eau à la main, et la suppliait de boire. Orna insistait. « Entrez, entrez !» Debout sur le seuil, il ne reconnut pas tout de suite Simone avec sa nouvelle tête de jeune fille. Elle avait l'air préoccupée, appuyée sur la commode aux sous-vêtements et aux combinaisons. Les bras collés au corps, son visage semblait fatigué et comme étranger aux crêtes de cheveux dont on l'avait pourvu au salon de coiffure. Yarden, adossé au mur, pieds nus, tenait ses souliers à talons d'une main et se défaisait les cheveux de l'autre. Elle ouvrit aussi sa ceinture. Quant à la petite, elle allait et venait entre la table et la fenêtre, les regardait toutes tour à tour et pressait le lièvre jusqu'à l'étouffer.
« Mais maman, qui c'est ?»
répétait-elle sans recevoir aucune attention. Orna, les poings sur les hanches, s'adressa au nouveau venu.
« Dites donc, on a fait effraction dans cet appartement. Vous avez entendu quelque chose? Vous avez vu de chez vous ?»«
Oh, c'est pas vrai !» Il entendait le battement de son cœur et craignait de blêmir ou de rougir. Il ajouta « Oh la vache! Je cours voir s'ils ne sont pas entrés aussi chez moi. » Il se tournait déjà vers la porte, mais Orna l'arrêta.
« Une seconde! Alors vous n'avez rien entendu de bizarre ?»«
Rien. D'ailleurs, je n'ai pas été là de toute la journée. Qu'est-ce qu'on a pris ?»«
Justement, c'est qu'on n'a rien pris. »
Alors, comment savez-vous qu'on est entré ? » Il fanfaronnait et se maîtrisait déjà beaucoup mieux. Il maudissait cette intuition idiote qui avait fait capoter l'autobus de la vieille et l'avait envoyée à la morgue alors qu'elle se portait comme un charme.
« Comment je le sais ? Le tordu qui a fait ça a laissé l'empreinte de son cul sur le lit, a laissé un tiroir renversé dessus, a oublié une facture et a laissé allumer. »
Raph y regarda le trou qu'avait creusé son derrière dans le couvre-lit. Il ne quittait plus Orna des yeux, de crainte qu'un coup d'œil fugitif ne le trahisse. Et tout en la regardant, il pensait. Malgré tout, elle a un petit quelque chose. Elle devrait juste maigrir un peu et s'adoucir. Dommage qu'elle s'en aille. Elle avait terminé. Il prit peur, car tout en fixant son attention, il n'avait pas écouté jusqu'au bout, et ne savait si elle avait fait allusion à lui,
et si elle le tenait pour complice dans cette fichue affaire.
Vous avez appelé la police ?
Tout en craignant la réponse, il se croisait les jambes avec désinvolture et essayait de détendre son cou et toute sa personne, comme si tout cela lui était parfaitement égal. Brouche, il avait mis en garde contre le risque de se mettre la police à dos, mentionnant une complication dans une autre affaire, va savoir quoi.
Orne a répondu
« Pas encore ».
Apparemment, la famille l'avait nommé tacitement chef des opérations et, après lui avoir passé le commandement, ses deux sœurs se taisaient et observaient la scène. De tout ce public féminin qui engorgeait la chambre à coucher, c'était justement la victime du cambriolage qui rayonnait le plus dans ses vêtements jaune poussin. Elle ne se laissait pas abattre par les preuves et les pièces à conviction.
« Qu'est-ce qu'on prend ? Du thé ? Du café ? » demandait-elle à la ronde, comme au milieu d'une réception mondaine.
« Quoi, du café ? » intervint Yardena en bâillant et en ricanant.
« Du café ! »
Raph y pensait.
« Du café. Elle est dans les vapes, elle a décroché. Il faut la faire signer avant qu'elle ne reconnaisse plus sa droite de sa gauche. »
Plus la vieille dame avait l'air contente, plus la Roumaine semblait inquiète et paniquée. Ses yeux couraient aux alentours et lorsqu'ils rencontrèrent ceux de l'homme, elle s'adressa à lui et répéta ce qu'elle avait sans doute déjà dit plus tôt.
« Moi, je dis qui était là, c'est Sécurité sociale ou la police du ministère intérieur. Ils veulent savoir quel malade dans la maison et quelle aide il faut. »
Les filles Yona connaissaient sans doute la théorie de la Roumaine sans y croire, car elles ne réagirent pas. Raph s'empressa de saisir la perche qu'on lui avait tendue.
C'est tout à fait logique ce qu'elle dit. Le service des enquêtes de la Sécu serait capable de tout pour prendre les gens en flagrant délit de faux témoignages sur leur état de santé. Ils envoient des types au renseignement, ils fracturent les portes, je le sais. J'ai un copain qui travaille chez eux. Il...
Arrêtez de nous casser les pieds,
l'interrompit Orne en se plantant entre la Roumaine et lui.
Au pire, ils prennent leurs clients en photo dans la rue, ils ne font pas effraction dans les maisons. Allez rendre à votre pote les balivernes qu'il vous a racontées et cessez de bourrer le crâne de cet employé. Elle est assez parano comme ça.
Debout, à 1 mètre devant elle, il aurait voulu s'enterrer sous terre.
« Quel misérable menteur tu fais, Rafi ! Quel ami as-tu à la sécu, ou même ailleurs ? L'adjudant de la famille t'a attrapé la main dans le sac. Maintenant, pas de doute, elle va appeler la police, et toi, va falloir te conduire en homme, tu as fait une bêtise, il faudra payer. »
Il avala sa salive et releva le menton vers elle. Mais les pointes que jetaient les yeux l'obligèrent à baisser la tête. Yardena bâillait et semblait s'ennuyer. Elle proposa de disperser la manif. Elle observa sa mère et lui demanda
« Maman, c'est quoi ces 2 hectares d'orchidées que tu te fais pousser sur le ventre ? Tu adhères à la guilde des horticulteurs ?»
La vieille femme saisit les pans de sa jupe et les tira de côté. Elle fit une révérence de mannequin et, sans prêter attention au craquement de ses genoux, répliqua «
Quel mal il y a dans les fleurs ? Qu'est-ce qui t'inquiète ? Tu penses peut-être que j'aurai meilleure mine avec des couleurs mortes pour mieux m'habituer aux sueurs, hein ?
Rien à craindre, le moment venu, tu verras, je prendrai le truc en 1 seconde. »
Elle laissa retomber la jupe et ajouta
« Et pour ta gouverne, sache qu'il y a un homme qui m'a fait des compliments. Il m'a dit que ce jaune m'allait fort bien. »
Le nouveau locataire s'étonnait des remarques de Yardena. À son avis, les fleurs jaunes lui allaient en effet très bien et lui donnaient un souffle de vie nouvelle. Et puis, cela lui rappelait les 10 000 000 d'orchidées qui poussaient dans les champs autour de son village natal. Cette fois, il manqua les dernières paroles de Simone qui n'avait rien dit jusque-là. Orne a écouté tout en se mâchant la lèvre inférieure. Yardena attendait aussi l'oreille. Les gens respectent toujours les paroles de ceux qui, d'ordinaire, se taisent. La petite les regardait tour à tour, espérant attraper un regard, mais en vain. Elle prit sa grand-mère par la manche.
« Mémé, mémé, par où il est entré? Vous allez appeler la police ?»
La Roumaine décréta. « Pas la peine, pas question pour la police, pas chercher des problèmes. » La petite se colla à sa grand-mère, qui se dessinait comme le seul personnage doué d'optimisme au milieu de l'attroupement tragique qui emplissait la chambre. La vieille posa une main sur la tête du lièvre et l'autre sur celle de la gamine et prononça, tout en caressant sa tendre chevelure.
« Ne pense pas tant que ça, Dan, allez. C'est dommage pour tes jolies boucles. À trop réfléchir, tu vas attraper des pellicules. »
Le locataire regardait les doigts osseux de la vieille dame, dont le contact contrastait tant avec l'attitude innocente de tous les autres, et il pensait que lui, personne ne l'aurait touché. Et malgré tout son caractère repoussant et ignoble, Dieu était quand même avec lui. La décision était prise, on n'appellerait pas la police. La Roumaine ne sortirait pas de son orbite, personne n'ayant intérêt à la voir se briser en morceaux. Pour cacher son sentiment de réconfort, il se pencha, défit un lacet et le renoua. Comme il se courbait sur sa chaussure, le sachet aux gants fit surface et un doigt noir en sortit. La petite avait vu. Il se redressa et fourra le sachet dans sa poche. L'enfant ne dit rien. Soit qu'elle pensât à autre chose, soit qu'elle n'ait pas compris, ou encore qu'elle se soit sentie si bien sous la main de Han Ayon qu'elle préférait ne pas gâcher le moment. De retour chez lui, il pensa d'abord brûler les gants, puis les couper en petits morceaux et les jeter à la poubelle, enfin les donner à quelqu'un dans la rue, comme celle-là qui lui avait donné le sandwich. Mais à défaut, il les fourra dans un tiroir, sous son linge, alla se coucher et ne s'endormit pas. Il pensait à cette journée dont il avait tous les instants en horreur. Il chercha quelque chose de positif qui puisse le réconforter et il conclut « Tout ira bien, Rafi. Toujours foutu à une nuit qui n'y met fin. Tout ira bien. La terre tourne une page nouvelle. » Il se réveilla une ou deux heures après la levée du jour et se leva tout de suite. Il craignait de rester couché, les yeux ouverts, et de revoir les images de la veille défiler devant lui. Ah, si l'on pouvait faire disparaître les journées foutues, les couler au fond de l'eau ou les brûler! Il s'habilla rapidement, se rasa et avala goulûment le café chaud qu'il s'était préparé. Debout à la fenêtre, il contemplait le petit lot qui était le sien. Les grandes grues étendaient déjà les bras pour étrangler le ciel, mais ne projetaient pas encore leur ombre sur la cour. Malgré toute leur crânerie, les grues aussi dépendent du mouvement du soleil. Les pruniers, dénudés et secs, faisaient pitié. Ces malheureux seraient les seules victimes botaniques de la prise de la cour par les bulldozers. Il leva les yeux vers le second étage. Orna sortait, fermait sa porte à clé et descendait. Sur le palier, le portable sonna. Elle s'arrêta et répondit. Le soleil donna à sa chevelure un reflet doré plus tendre et plus soigné qu'à l'ordinaire. La douceur du matin glissait sur son visage et lui donnait une certaine délicatesse. Raph y pensa que c'était quand même dommage qu'elle s'en aille. Il reposa sa tasse, ouvrit sa porte et sortit. Peut-être échangerait-il un bonjour amical en se croisant. Elle était plongée dans sa conversation et l'aperçut debout sur les trois carrés qui séparaient son appartement de l'escalier. Orn apporta inconsciemment son regard de lui vers les grues. Il resta là, comme s'il respirait l'air frais, pour se reposer de la composition d'un poème ou d'une réflexion profonde. Il se donna l'air de l'écrivain fantôme avec lequel il était entré le premier jour. Il prit l'attitude de quelqu'un qui s'est levé tôt et qui fait une pause après avoir déjà abattu une bonne partie de la journée. Elle coupa d'un doigt sec, remit son sac en place sur son épaule et descendit. Raph y pensait. C'est dommage qu'elle porte ce gros jean. Une jupe légère ne ferait pas de mal à sa taille. Elle atteignait les dernières marches qui la séparaient de lui. Il vit un pied qui passait devant l'autre et les deux qui s'arrêtaient sur le carreau voisin du sien. « Bonne journée, » dit-il en souriant. Mais elle ne lui rendit pas son sourire et planta sur lui les clous de ses yeux de la veille.
« Espèce de lapin, on a déjà un lièvre à la maison, c'est bien suffisant !»
Il vacilla comme le front frappé par un bloc de glace. « Je cherchais justement un comprimé d'Optalgine, ma tête explosait.
« Estimez-vous heureux qu'on n'ait pas appelé la police et fermez-la !»
Elle remit son sac en bandoulière et s'en alla rapidement. Elle ouvrit le portail et le referma à la volée dans un vacarme de métal. Il savait qu'il était blanc comme la chaux du mur derrière lui et que son cœur absorbait tout le sang que son corps contenait. Les genoux ne le soutenaient plus. Il prie à Dieu de bien vouloir ouvrir la terre pour l'engloutir comme il l'avait fait dans le désert de la Bible. Le pire ver de terre, le moindre lézard, la plus nulle des poules avait plus d'honnêteté que lui. Toute fourmi, tout insecte répugnant gagnait leur pitance plus loyalement. Comme tu es tombé, tu tomberas. Tout dépend de toi. Tu peux encore sauver ta peau, tu n'as pas volé, ni tué, ni... Yardena et la petite sortaient à leur tour, le lièvre courant devant elles. La première, toujours élégante à l'excès, la seconde, échevelée et négligée, et la courroie du cartable pendant derrière elle. Le lièvre passa le premier. Il sautait tout droit vers le jour nouveau et se planta devant la porte de la vieille comme si on l'attendait pour commencer le spectacle. Yardena n'accorda pas même un regard à Rafi. Elle était tellement plongée dans son portable qu'il ne put deviner si elle savait aussi ce qu'Orna avait découvert. La petite s'arrêta à côté de lui.
« Pourquoi que t'es plantée là comme un poteau? T'as pas de travail ?»
Comme elle l'observait, un flocon d'avoine tomba de son menton. Elle se détourna et cria.
« Herz, attends !»
Et elle se rua à la poursuite du lièvre. Elle atteignit la porte de la grand-mère, mais n'entra pas. Yardena la pressait.
« Allez, en avant !»
La petite suivit jusqu'au portail sans rechigner. Rafi, toujours debout, respira profondément et sentit un soulagement au cœur. La couleur lui revenait et les genoux se raffermissaient. Le soleil montait cependant et atteignait les grues. La lumière se brisait et lui frappait les yeux. Il fut ébloui un moment, baissa les paupières et les releva pour voir Simona qui fermait sa porte, hésitait un moment au haut des marches, essayait de se souvenir de quelque chose et se tenait le front entre le pouce et l'index. Elle finit par en prendre son parti et commença à descendre, ses cheveux courts plantés sur le crâne. Il espérait qu'elle s'arrêterait près de lui et lui dirait quelque chose, même la plus terrible qui soit. Avec elle, on pouvait toujours parler. Il pourrait lui raconter que la migraine l'avait accablé, qu'il voyait double, qu'il avait l'œil gonflé, qu'il avait vomi comme un damné, qu'il cherchait un cachet, que c'était une question de vie ou de mort. Mais elle passa avec un quart de hochement de tête seulement, qui n'était d'ailleurs peut-être qu'un mouvement destiné à chasser un moucheron de son visage. Voilà, Rafi. Elles sont toutes parties à leurs occupations, comme le font la plupart des gens le matin. Et à toi, il ne te reste plus qu'à regarder au fond de ton âme malade et de décider si tu la sauves ou non. Il n'est pas encore trop tard. Il passa la main sur sa poitrine comme pour tâter son âme et se dit « Il faut prendre un peu de distance. Je vais aller chez Yves et Motti me changer un peu les idées. Après un jour avec eux, le monde reprendra ses justes proportions. » Comme il s'apprêtait à composer le numéro de Ziva sur son portable, il remarqua une camionnette qui s'arrêtait devant la maison et il remit le téléphone dans sa poche. La Roumaine descendait du côté droit et le chauffeur par la portière gauche. C'était un homme d'un certain âge, vêtu d'une salopette bleu foncé. Ils se retrouvèrent à l'arrière de l'auto. L'homme ouvrit le haillon et sortit de la voiture une caisse de plantes qu'il déposa dans la cour. Il répéta cette opération trois fois. La Roumaine observait comme si elle avait gagné le gros lot. Elle était donc tombée du lit? Quand avait-elle eu le temps d'aller à la pépinière et d'en revenir? Et pour qui et pourquoi cette attaque botanique sur la cour en friche? L'homme en bleu le pria de bouger, le repoussa jusqu'au fond du petit carré et passa devant lui, portant une caisse pleine de plantes vacillantes dont s'échappaient des effluves de terre mouillée. Il déposa la caisse sous les pruniers, repartit et revint avec le reste, laissant derrière lui une traînée odoriférante de menthe et d'estragon. La Roumaine se dirigea vers les pruniers pour contrôler le déchargement des épices et des pousses. Le nouveau locataire contemplait les plantes vertes qui levaient la tête pour observer l'endroit qui allait devenir leur horizon éternel. La Roumaine veillait sur eux, comme une paysanne qui se lève pour son labeur quotidien dans un champ de choux. Les jambes écartées, les cuisses solides, les gros souliers en bataille, elle indiquait au jardinier où déposer les épices, les plantes d'agrément et les arbustes fruitiers. Raph y couvrit du regard toute cette fièvre verte qui prenait la cour d'assaut et pensa. La vieille s'installe pour de bon. Quand on plante dans sa cour, on en a pour au moins 70 ans. Il était encore plongé dans ses réflexions que Han Ayon arrivait par la porte de la cuisine et se mêlait à la révolution verte. Sa robe violette, toute fripée, semblait sortir de prison après de longues années dans un grenier. La vieille ne rende compte à personne. Elle enclenche la marche arrière et appuie sur le champignon. Elle se teint en noir, va s'amuser à Tel Aviv et s'offre un jardin. Comme si elle avait passé un contrat avec Dieu pour les 100 ans à venir. Han Ayon passa sous les pruniers. Elle se heurtait les pieds aux pierres qui enveloppaient l'âme de son mari. Le soleil faisait ressortir des îlots chauves sur son crâne. Maigre et osseuse, elle rayonnait de bonheur, debout à côté de sa Roumaine, se frappait les mains et proférait. « Comme le parc va être beau, ça va être aussi joli que l'asile du légume mort et du gentleman vivant. » Raph y quitta son petit carré et se dirigea lui aussi vers les pruniers. Peut-être allait-il apprendre quelque chose des projets d'avenir et de ses intentions. Contrairement à son habitude, la Roumaine l'accueillit avec un sourire et un rayon de soleil éclaira sa dent en or. Elle s'adressa à lui. « Merci, monsieur, que vous, hier, dit c'était la sécurité sociale et pas besoin de police. » Enfin, elle l'avait placé du côté des bons. Il ne fallait jamais désespérer. Le jardinier partit et revint avec une grande bêche et un rouleau de tuyaux d'arrosage. Puis il apporta une fourche et une pioche. Le locataire observait et comprenait que la vieille n'avait pas l'intention de s'en aller de sitôt. Elle n'aurait pas tant investi dans ce projet pour que d'autres profitent du fruit de la terre retournée. Il essaya de la démoraliser en prétendant que la poussière des grues allait étrangler les plantes et les couvrir d'une épaisse saleté blanchâtre et que, même si quelque chose poussait, ce serait malingre et chétif et que, de toute façon, il n'y aurait ni fruits ni fleurs. Le jardinier sortit une cigarette de sa poche, l'alluma, tira quelques bouffées et déclara « Faut pas les alarmer comme ça. Elles n'ont pas grand-chose à faire dans la vie, alors elles s'occuperont du jardin toute la journée, elles arroseront, elles essuieront la poussière, elles chasseront les mouches. À quoi bon les décourager dès le début ?» Il secoua la cigarette et la cendre tomba. Il tira encore une bouffée, jeta le mégot par terre, le piétina et demanda « Dites, madame, où vous voulez le ranger ?» Il brandit sa pioche et frappa le sol, et à chaque coup, la tête de la vieille remontait et descendait comme un mouvement d'acquiescement. Le locataire recula devant les éclats qui volaient. Il regarda la cour et aperçut le sourire macabre de l'épouvantail, la dent d'or de la Roumaine qui brillait et le coq de verroterie qui pendait sur la robe de la vieille. Il comprit qu'il n'y avait plus d'espoir pour les grues. Il se mit en chemin vers son appartement, nettoya ses lunettes, se coiffa, prit son portefeuille et se dirigea vers la station de l'autobus qui l'emporterait vers le bureau de Brouchy. Il était résolu à dire à l'entrepreneur « Brouchy, tout est perdu. Nous n'avons plus rien à chercher là-bas. Libère-moi de mes engagements. » Une heure plus tard, il revenait bredouille. La secrétaire de Brouchy avait déclaré que son patron avait fait un saut à Londres pour 2 jours. Elle avait demandé si elle pouvait lui être utile. En quittant le bureau, debout dans la cage d'escalier, il s'était dit « Cela vaut peut-être mieux comme ça. Je n'aurai pas à lui déballer le tout directement. Je vais appeler sa femme et je lui ferai part de mes découvertes. Je lui expliquerai comme il est vain et inutile d'espérer quelques bénéfices dans cette affaire et à quel point ma présence sur place est inutile. Je lui dirai que je demande ma liberté, et ce pour des raisons d'honnêteté et de droiture, et j'exigerai la suspension de l'indemnité. La femme l'appellerait, il entendrait tout par ouï dire, et d'ici son retour, il se calmerait et se résignerait. » La femme de Brouchy l'écouta patiemment, et quand il eut terminé, déclara
« Vous m'avez bien fait rire. Dites donc, vous êtes si naïf que ça, ou vous faites semblant ? Vous libérer de Brouchy ? Impossible ! Mais dans le monde futur, une chose pareille ne s'est jamais vue. Il met le doigt sur une propriété ou sur un individu, c'est un vrai vampire. Il plante les dents dedans et ne lâche sa proie que lorsqu'elle émet son dernier soupir entre ses pattes. Même moi, avec tous les scandales que je fais, il ne me laisse pas partir. Alors vous ?»
Il ne tenta pas de la convaincre de parler à son mari et il se persuada qu'il n'y avait pas de solution. Il referma le portable, sortit, mais ne se mêla pas aux gens qui peuplaient la rue. Sous la fenêtre du bureau, il s'attribua encore un verset du Deutéronome. « Regarde, Rafi, j'ai mis devant toi la vie et la mort, le mal et le bien, à toi de choisir. » Il ne prit pas l'autobus et rentra à pied. Il pensait « Je piétine tout seul dans la boue et l'asphyxie. Si je crie, on ne m'entendra pas. Si j'expire, je ne manquerai à personne. 40 ans sur terre, et je n'ai encore laissé aucune empreinte, aucune. » Tout occupé à se prendre en pitié, il arriva à la maison. Une femme vêtue de rouge se tenait debout devant la façade, la main en visière sur le front, et contemplait les chemises rouges qui pendaient de la fenêtre de Simone. Elle tâchait de voir le numéro et comparait avec un papier qu'elle tenait à la main. Finalement, elle se dirigea vers le portail. Il entra devant elle dans la cour et il tint le ventail ouvert. « Vous cherchez quelqu'un ?» Quand elle passa près de lui, il sentit une légère odeur de déodorant. « Encore un agent foncier, grand bien lui fasse. Allez, que tous les concurrents de Brouchy se pointent à la queue leu-leu. Tous les Hers et les Klein et les autres requins, qu'ils lui remplissent la tête et qu'elle cède au plus offrant et que lui soit enfin délivré de ses souffrances. » La visiteuse demanda « Simona Iona habite ici ?» Un rayon de soleil lui glissa sur le cou. « Au deuxième étage, l'appartement le plus à droite par l'escalier. Mais autant que je sache, elle est au travail en ce moment. Je l'ai vue sortir ce matin. » « Nous avions rendez-vous, » répondit-elle. La voix était plus jeune et plus agréable que l'apparence. Elle devait avoir entre 40 et 50 ans, plutôt 50. Elle avait dû être très belle dans sa jeunesse. Que pouvait-elle bien vouloir à Simona ? Il voulut le lui demander, mais se retint à temps. « Non seulement tu fais effraction dans leur maison, mais tu veux aussi leur cambrioler la vie ? Essayez, regardez si elle y est. » Il se comportait comme un portier qui fait la sélection entre les visiteurs. Elle monta et il regardait d'en bas. Il vit les mollets et les jambes, en bref, tout ce que la robe lui permit de voir. Il rentra chez lui, mais il ne put s'empêcher de revenir à la fenêtre et de l'observer pendant qu'elle s'appuyait sur la rampe en attendant Simone. Debout et accoudée ainsi, elle scrutait la cour, le ciel et les toits qui le dépassaient. Rafi s'étonna de ce que cette apparition lui ait fait oublier le jardinier à son travail. Il continua à observer la visiteuse de derrière son rideau et sa fenêtre. Il se sentait attiré par cette beauté flétrie dont il ne restait plus que des signes extérieurs. Il n'avait jamais eu d'attachement pour les femmes au visage lisse et clair et pour celles qui ne savaient pas parler à la vie en face. Il n'aimait pas les joues qui sonnaient creux. Sa sœur Ziva, par exemple, avant que la vie ne les froissait comme ça, c'était la plus belle du quartier. Sa beauté était propre, complète, trop lisse et inconséquente, comme ces filles et ces femmes à qui le Photoshop refait la devanture et les transforme en rien du tout. On dirait qu'elles sortent toutes du même ventre. Et puis, Mott y était arrivée avec son paquet de tracas et la beauté de Ziva avait pris une toute autre tournure, plus fripée et plus tendue à la fois, un teint fumé et jauni par la cigarette, vif et saillant. Il y avait toujours quelque chose qui vibrait dans le visage de sa sœur, quelque chose qui veut à la fois s'apaiser et se ruer. On ne pouvait pas détacher son regard de ce visage. Raph y contemplait cette femme qui attendait Simone, la pointe de ce coup de faim, la ligne de cette main sous le menton. Cela faisait bien longtemps qu'il n'avait pas eu envie d'une femme. Cette étrangère qui n'était plus toute jeune l'emballait. Tout à l'heure, elle était debout devant lui, et maintenant, il ne voyait que sa silhouette. Cette vue n'avait rien d'étonnant, et pourtant, l'ensemble de ses traits simples ne manquait pas d'attrait. S'il avait osé, il sortirait et entamerait la conversation avec elle. Mais Simone allait rentrer d'un moment à l'autre, et il valait mieux se faire le plus petit possible, compte tenu de l'algarade de la veille. Raph y se regarda dans la glace, se recoiffa, essuya ses lunettes et se décida à aller inspecter le travail du jardinier. Et pour le reste, il s'en remettait au hasard. La Roumaine sortit de derrière un prunier. « Alors, quoi vous en dites ?» Elle était en sueur et souriait. De ses bras étendus, elle lui montrait la métamorphose qu'avait connue la cour. Il porta un regard hagard sur elle d'abord, puis sur la cour, et n'en croyait pas ses yeux. Il enleva ses lunettes, frotta les lentilles et les remit en place. « Oh oh !» Et il pensait. « Regarde-moi ça. Pendant que tu galopais chez Brouchy, que tu gaspillais une heure de ta vie et que tu pleurnichais sur ton sort en rentrant bredouille, le jardinier fixait un point de non-retour tout vert dans la cour, plantait des géraniums le long de la clôture et des arbres fruitiers, et disposait des plants d'épices autour de l'épouvantail. Il avait eu le temps de verser des paniers de terre rouge sur le sable et avait tout bien arrosé, et tout ça au soleil et sous l'œil rouge et clignotant des grues. Pendant que tu traînais dans les rues en crachant ton amertume de tous côtés, la Roumaine et le jardinier reconstruisaient le monde, sarclaient, enracinaient et plantaient. Raffi se pencha et vit les jambes du jardinier entre les troncs chétifs des pruniers. Il travaillait à faire revivre la terre entre les pruniers et le bougainvillier. Tout en tirant des fils de fer et en plantant des tasseaux, il chantait. « Le Messie ne vient pas, le Messie n'appelle pas au téléphone. » Raffi s'étonna de la joie qu'il ressentait. Au lieu de porter le deuil de ce regain de vie, il sentait quelque chose qui le réchauffait et lui gonflait le cœur. La chance avait enfin tourné. « C'est beau, c'est vraiment beau !» dit-il à la Roumaine qui, elle aussi, avait complètement changé d'attitude à son égard depuis que la crainte de la police les avait soudain réunis. Elle lui sourit encore et dit « Longtemps, je dis à Madame Hanna, il faut faire un jardin dans la cour. Maintenant, Madame Hanna aussi veut un jardin. » Le dos tourné à la maison, Raph y espérait que la femme en rouge était encore accoudée à la balustrade. Il aspira une bouffée de la terre humide, se retourna et la vit qui faisait les 100 pas sur la galerie, les bras croisés. Du bas de la cour, il lui cria. « Quoi, elle n'est pas encore là ?»« Non, pas encore. » Puis elle reprit ses allées et venues. Sa robe projetait sur le mur une lueur rouge qui semblait l'accompagner dans sa marche. « Vous l'avez appelée ?»«
Non, à quoi bon l'appeler ?»«
Comment ça, à quoi bon ?» Il ne criait plus.
On a fixé avec vous, non ? Votre temps à vous aussi est précieux. » Mais tout cela n'était pas son affaire. Peut-être celui qui présidait au temps avait-il causé quelques retards chez Simone pour lui permettre d'échanger quelques mots avec cette femme, et il n'avait pas l'intention de laisser passer cette chance. « Vous voulez boire quelque chose ?»«
Un café, si c'est possible. »
La simplicité et le naturel de ses façons enchantèrent Raffi.
« Bien sûr, c'est possible. Noir ou au lait ?»
Dans son enthousiasme, il oublia qu'elle avait demandé sans sucre. Il en versa deux cuillerées, déposa la soucoupe et la tasse sur un plateau, disposa sur une petite assiette quelques biscuits qui lui restaient d'un paquet à l'agonie. D'un pas de ballerine au travail, il sortit de chez lui, monta l'escalier et posa le plateau sur la balustrade. Maintenant, il pouvait la voir de près. Elle goûta le café et le reposa.
« Je vous avais demandé sans sucre !»
Il n'eut pas le temps de s'humilier et de s'excuser. Il entendit le grincement du portail et les pas de Simone sur l'allée pavée. Elle s'arrêta au pied des marches et contempla le miracle qui avait transformé la cour. Raffi pensa « Elle va monter et elle va me voir coller à son invité et elle va me faire la tête. » Il ne savait que faire du malheureux café. En préparer un autre, l'abandonner sur le rebord. Mais Simone était déjà en haut et s'excusait du retard. Elle fit signe à la femme de la suivre, ouvrit sa porte et le congédia d'un ton froid et sec.
« Vous nous excuserez maintenant !»
Toutes deux entrèrent et la porte se referma derrière elles. Raffi n'attendit pas une seconde. Il ramassa le plateau avec la maigre collation, descendit chez lui, entra et avala le contenu de l'assiette. Les biscuits humides avaient un goût de moisi. Il les dévora les uns après les autres et se félicita de ce que la visiteuse n'y ait pas touché. Il prit un livre et une chaise et s'installa dehors pour ne pas la manquer à son départ. Si la chance continuait à lui sourire, ils échangeraient peut-être un ou deux mots et même leur numéro de téléphone. Et si la chance tournait, elle le mépriserait pour son café minable, pour son désœuvrement de jeune homme qui lit au milieu de la cour et en plein midi, alors que les gens de son âge triment, produisent et soutiennent le monde en mouvement. Ah, si elle savait quelles humiliations il devait souffrir pour gagner son pain quotidien et à quel prix misérable il vendait le respect de soi. Il essaya de lire, mais ne saisissait pas le sens des mots écrits. Il voulait réfléchir, mais ne parvenait pas à concentrer ses pensées. Il espérait entendre la porte de Simone à tourner sur ses gonds. En attendant, il avait chaud. Le soleil lui brûlait le front. Il posa le livre sur son crâne en effervescence pour se protéger de l'astre du jour. Quand la porte s'ouvrirait, il le reposerait sur ses genoux et ferait mine d'être plongé dans sa lecture. Le soleil n'avait guère progressé sur la ligne des pruniers lorsque la porte s'ouvrit. Il se secoua et enleva prestement le livre. Malheureusement, sa main ruisselante de sueur laissa tomber l'ouvrage par terre. Il manqua de pousser un juron, mais se tut. Il ramassa le livre et frotta les deux couvertures l'une contre l'autre pour en ôter le sable. Du coin de l'œil, il aperçut une lueur rougeâtre sur le mur et entendit le claquement des talons sur les marches. Il avait à peine repris contenance qu'elle passait devant lui.
« La prochaine fois, pas de sucre !»
Il se redressa sur sa chaise, se contracta le ventre et posa la main sur son menton pour en cacher la duplicité.
« Il y aura une prochaine fois ?»«
Possible. Nous allons être voisins. J'ai loué la maison de la doctoresse. »
Elle s'éloignait vers le portail.
Alors, bon séjour.
Mais son appel se heurta au portail qui se refermait et elle était déjà dans la rue.
Oh mon Dieu, je te remercie car tu as entendu ma voix,
fit-il en tapant du poing sur le livre.
De quoi, vous avez dit ?
Le jardinier s'approchait et se plantait devant lui, le visage terreux et une cigarette à la main.
« J'ai dit merci à Dieu. Vous êtes pratiquant ?
Traditionnaliste. Raffi n'avait aucune envie de faire part de ses problèmes avec son créateur, à cet étranger qui venait planter et s'en aller et n'avait rien de commun avec lui.
Traditionnaliste.
Le jardinier éclata de rire, cracha sa nicotine, tira sur sa cigarette et laissa la fumée sortir en volute de ses narines.
Tous les peureux sont traditionalistes. Ils n'ont pas le courage d'aller jusqu'au bout. Ils n'observent pas les commandements, mais ils ont la trouille de tout jeter. Moi, par exemple, j'ai coupé avec tout ça. Je suis laïque à fond. Advienne que pourra. J'ai pas peur, moi.
Il jeta la cigarette par terre et l'écrasa de sa grosse semelle.
Allez, portez-vous comme vous voulez.
Mais avant de reprendre son labeur entre les pruniers et le bougainvillier, il ajouta.
Pourquoi vous lui avez dit merci ?
Vous avez vu la femme en rouge ?
J'ai vu. Elle n'est plus toute jeune. Elle a fait pas mal de kilométrages dans la vie.
C'est pour ça que vous lui avez dit merci ?
J'ai remercié pour remercier.
Le jardinier éclata encore de rire.
Eh, il a peur du mauvais œil. Faut pas avoir peur. J'ai vu des chiffons rouges pendus partout. Allez, portez-vous bien.
Il se dirigea vers le bougainvillier tout en sifflotant et reprit son travail.
Raffi pensait. Heureusement que je ne lui ai rien dit. La bénédiction se pose sur les objets qu'on ne laisse pas sous les yeux. Et à propos d'yeux, quels yeux, la nouvelle locataire ! À la fois marron, vert et gris. Comme si Dieu avait épuisé ses provisions de couleurs et lui avait collé ce qui restait.
Il s'efforçait de se souvenir. Cette semaine, il avait vu quelque chose de ce genre. Il se tapa le front.
Hier, idiot, hier, dans le tiroir de la vieille. Les perles qui te rappelaient la mer, la terre, tout ça, tu te souviens ?
Évidemment qu'il se souvenait. Ces perles, il allait les empocher, n'était-ce Dieu, son père et tout ça.
Raffi sourit.
Alors, comme ça, elle va devenir la locataire de Simone. L'homme, c'est comme un yo-yo, tantôt au bas de l'échelle et tantôt au septième ciel. L'essentiel, c'est qu'il y a quelqu'un qui tire le fil. Il tire et relâche la ficelle à sa volonté.
Il regarda un instant le ciel et rentra chez lui avec la chaise et le livre.